Raphaël Mariano Grossi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'AEA. Nous sommes en marge de l'Assemblée générale. Merci de nous accorder cet entretien.
Avec plaisir.
L'AEA a vu son rôle dans le domaine de la sûreté nucléaire se transformer depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Ukraine plaide aujourd'hui pour une architecture renforcée, modifiée face à la militarisation des installations nucléaires civiles énergétiques. Selon vous, que faudrait-il faire pour être à l'abri d'une telle menace?
Bon, d'abord, c'est vrai ce que vous dites, il y a une certaine évolution, voire transformation profonde dans la manière, si pas dans dans la régulation, dans les normes qui existent et qui étaient aptes à couvrir cette éventualité, il y a eu, on a été forcé par les faits à intervenir d'une manière directe. L'agence a décidé, moi-même, on a décidé de mettre tous nos moyens à la disposition pour protéger une centrale qui avait été occupée et autour de laquelle des activités militaires, voire des attaques ou des entraves à l'opération normale par les biais de l'interruption de l'approvisionnement des courants électriques, par exemple, menaçaient, voire pourraient mener à un accident nucléaire avec des conséquences radiologiques. Donc l'agence a joué un rôle, je dirais, d'inspection, des sécurités, des sûretés, un rôle, je dirais aussi, des détentes, dans le sens de être une présence de la communauté internationale au milieu d'un conflit majeur. Donc, c'est une situation assez unique. On s'est bien adapté. Je ne veux pas dire que la situation est complètement stabilisée ou que tous les risques ont été écartés. Loin de là. Loin de là. On va au jour le jour, je dirais. Mais cette intervention active a été importante. Et il existe, c'est vrai, et dans votre question, il y a un peu ça, des idées, des gens qui disent peut-être devrait-on renforcer ou faire d'autres choses au niveau des normes, au niveau des conventions, etc. Moi, ce que je dis pour l'instant, il faut s'atteler et il faut se concentrer sur éviter un accident nucléaire. Les 7 piliers de la sécurité, de la sûreté nucléaire que j'ai énoncé au début du conflit, les 5 principes de base, ne pas attaquer une centrale nucléaire, ne pas militariser une centrale nucléaire, qu'on a aussi présenté, que j'ai présenté au Conseil de sécurité au mois de mai, font une base qui peut-être pourrait évoluer dans un avenir. Mais je crois que dans le moment, l'important, c'est de protéger la centrale, éviter un accident. Et pour cela, la structure normative qui existe est suffisante.
On va passer au nucléaire iranien. L'accord avec l'Iran a suscité beaucoup d'espoir en 2015. Aujourd'hui, il semblerait être moribond. Et la semaine dernière, l'Iran a retiré son approbation d'inspecteur expert de l'AIEA, une action que vous avez fustigée. Alors, comment interprétez-vous la démarche de l'Iran? Et quelle est votre lecture de ce geste et de la relation entre l'AIEA et l'Iran aujourd'hui et son programme nucléaire?
Il y a, c'est vrai, une dégradation constante dans la situation autour du programme nucléaire iranien. D'un côté, les JCPOA, comme vous dites, si pas moribond, est dans un état difficile à définir parce que dans la lettre, il existe, mais aucune des obligations qui existent dans le cadre de cet accord sont observées ou accomplies. Donc, ça, c'est d'un côté. Et en même temps, l'Iran réduit la visibilité et la présence de l'agence sur place. Donc, c'est une convergence de facteurs qui ne sont pas très très positif. Et c'est pour ça que la dernière mesure prise par l'Iran n'est plus autorisée l'entrée des inspecteurs qui font partie des équipes les plus experts dans les installations iraniennes, c'est incompréhensible pour moi. Et donc j'ai demandé à l'Iran de réviser cette décision. J'ai proposé qu'on se réunisse au plus vite pour clarifier ça. Le problème, au fond, c'est que l'Iran a décidé de rétalier sur l'agence et d'exprimer sa frustration à propos de divergences qu'elle a avec certains pays, par les biais de l'agence et des inspecteurs, ce qui me paraît donc on prend en otage l'Agence internationale d'énergie atomique et ses inspecteurs pour régler un différend politique. C'est inacceptable. Et j'ai dit, arrêtez ça. Donc, la seule manière, c'est clair, l'Iran plaide toujours pour une compréhension internationale, elle plaide toujours pour une réhabilitation au sein de la communauté de nations. Eh bien, je crois que ça passe, en tout cas, dans les chapitres nucléaires, par une coopération avec l'AIEA. Et que si, voilà, on commence avec des mesures de ce type-là, évidemment, moi, je ne serai jamais en mesure de donner les garanties que l'Iran souhaite. Donc, j'espère qu'on pourra corriger au plus vite cette mesure.
Et vous avez donc espoir ?
Toujours.
Dernière question, si on pense aux aléas climatiques, Fukushima, l'Ukraine, l'Iran, les sous-marins nucléaires maintenant. Peut-on vraiment miser sur le nucléaire en tant que source d'énergie sûre ?
Absolument. L'énergie nucléaire, aujourd'hui, fournit un quart de l'énergie sans CO2, de l'énergie propre. Et cela n'est pas une proposition ou une idée d'avenir. En Europe, c'est la moitié. Et dans le monde entier, c'est un quart, 25%. Et il y a un intérêt croissant. Ce que vous décrivez bien, c'est des manifestations, je dirais, d'un monde sous tension géopolitique qui n'exclut pas ou qui n'épargne pas le secteur nucléaire. Donc les problèmes en Ukraine, c'est la guerre, ce n'est pas l'énergie nucléaire. Les problèmes dans le Indo-Pacifique, c'est des tensions qui ont d'autres origines et qui trouvent éventuellement dans des projets des propulsions navales, nucléaires, etc., peut-être un véhicule pour manifester ces tensions-là. Et c'est là que le rôle de l'agence devient très utile, même indispensable, parce que c'est justement à travers des inspections objectives, technique qu'on peut apporter une clarification. Après, la politique aura sa logique. Mais nous, de notre côté, nous faisons tout dans nos capacités pour apporter des informations objectives.
Et quant au changement climatique et aux aléas climatiques, on pense aussi à l'accident avec Fukushima, il y a des mesures à prendre. Ce ne sont pas des menaces qui font plus peur aujourd'hui ?
Je crois que toute activité industrielle comporte des risques. Quand vous regardez les parcours, je dirais, de l'énergie nucléaire, et ça peut sembler paradoxal, parce qu'il y a toute une narrative, c'est une des énergies plus sûres. C'est l'énergie avec les plus bas pourcentages de morbidité au monde, comparé à toutes les autres. C'est vrai, ça fait beaucoup d'effets quand il y a un accident comme celui qu'on a eu à Fukushima ou Tchernobyl. Même si les raisons ont été complètement différentes, Tchernobyl, le résultat d'un système politique opaque et dysfonctionnel, et Fukushima, d'ailleurs, par la non-observance des principes de sécurité et de sûreté nucléaire. Mais la réalité, comme je disais tout à l'heure, plus de 400 réacteurs nucléaires au monde, des réacteurs nucléaires qui sont en train d'être construits en Inde, en Chine, en Russie, en Europe, avec un engagement très fort des pays comme la France, comme l'Angleterre, d'autres aussi, toute l'Europe de l'Est, pour des raisons peut-être aussi politiques, mise sur le nucléaire, la Tchéquie, la Roumanie, la Pologne, l'Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie. Donc, comme on peut le voir, c'est un phénomène global. Donc, ce qu'il faut, c'est de garantir que cette source d'énergie propre soit utilisée de manière sûre.
Merci beaucoup.
De rien.